VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 2 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président américain Donald Trump et la première dame sont en quarantaine après avoir contracté le coronavirus. La Maison Blanche procède au traçage des cas contacts. De nombreux dirigeants dans le monde ont souhaité un bon rétablissement au couple présidentiel. Les Maliens attendent la formation du gouvernement et la levée des sanctions. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, conclut à Rabat une tournée dans la région du Maghreb. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé que son épouse et lui-même ont été testés positifs au coronavirus. Le président américain entre ainsi en quarantaine et suspend provisoirement sa campagne. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
Le président Trump a tweeté très tôt ce matin que la première dame et lui-même ont été testés positifs au Covid-19, ajoutant « Nous allons immédiatement commencer notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons nous en sortir ensemble. » 11 minutes plus tard, le médecin de la présidence, Sean Conley, confirmait l'information dans un communiqué, tout en précisant que Trump et son épouse se portent bien et prévoient de rester chez eux à la Maison-Blanche durant leur convalescence. Il a ajouté que le président continuera à exercer ses fonctions sans interruption pendant sa récupération. Plus tard, la première dame s'est aussi exprimée dans un tweet sur son compte officiel. Le président et moi sommes en quarantaine à la maison après avoir été testés positifs au Covid-19. Nous nous sentons bien et j'ai reporté tous les engagements à venir. Assurez-vous de rester en sécurité et nous nous en sortirons ensemble. Selon un responsable de la Maison-Blanche, la plupart des prochains rendez-vous du président ont été annulés. Le vice-président Mike Pence, quant à lui, a été testé négatif ainsi que son épouse. Le secrétaire d'État Mike Pompeo et son épouse ont également été testés négatifs.
Le vice-président Mike Pence a été testé négatif. Monsieur Pence souhaite un bon rétablissement au Trump, a déclaré son porte-parole Devin O'Malley. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a aussi été testé négatif. Par ailleurs, la juge Amy Coney Barrett, nommée récemment par Donald Trump à la Cour suprême, est testée tous les jours et négative, a indiqué la Maison-Blanche. Le président Donald Trump est ainsi contraint de faire une pause dans sa campagne à quelques semaines des élections. Son rival démocrate Joe Biden lui a souhaité un prompt rétablissement, ainsi qu'à la première dame Melania sur Twitter. Les Trump et les Biden étaient tous à Cleveland, dans l'Ohio, mardi soir, dans la salle du premier débat pour le scrutin du 3 novembre. Et Joe Biden a annoncé avoir été testé négatif. Au plan international, plusieurs dirigeants ont souhaité au président américain Donald Trump et à son épouse Melania un prompt rétablissement. Le point avec Nani Talani.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a adressé ses meilleurs vœux au président Trump et à la première dame Melania pour un rétablissement. Pareil pour le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a souhaité au couple un rétablissement complet et rapide. Le président russe Vladimir Poutine ajoute « Je suis convaincu que votre vitalité, votre bonne humeur et votre optimisme vous aideront à faire face à ce dangereux virus. » Le premier ministre britannique Boris Johnson, qui a lui-même passé 3 nuits en soins intensifs en avril après avoir contracté le coronavirus, a tweeté « Mes meilleurs vœux au président Trump et à la première dame. J'espère qu'ils auront tous les deux un prompt rétablissement. » Angela Merkel, la chancelière allemande, Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, et Narendra Modi de l'Inde ont aussi exprimé la même empathie et la même solidarité au président Trump et son épouse pour qu'ils se remettent vite et retrouvent la bonne santé. En Afrique, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et l'égyptien Fatah al-Sissi ont aussi souhaité un prompt rétablissement au couple présidentiel américain.
Le Mali est dans l'attente de la levée de l'embargo depuis que la junte a modifié les prérogatives du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, dans la charte publiée au journal officiel, selon laquelle il ne peut plus remplacer le président. La seconde attente est la formation du gouvernement de transition. Le blocage serait entre le premier ministre Mokhtar Ouane et les militaires. Kassim Traoré nous en dit plus.
C'est la clarification des missions du vice-président de la transition qui avait bloqué la publication de la charte de la transition. Depuis hier, c'est chose faite. Dans l'article 7 de la charte, le président de la transition est secondé par un vice-président. Il est désigné suivant les mêmes conditions que ce dernier. Le vice-président est chargé des questions de défense et de sécurité, ce qui veut dire qu'il ne peut pas remplacer le président en cas d'empêchement comme l'avait souhaité la CEDEAO. Avec cette clarification, les Maliens attendent la levée de l'embargo contre le Mali qui est en vigueur depuis le 18 août 2020, date du coup d'État. L'autre attente à Bamako, c'est la formation du gouvernement de transition. Il semble que les militaires ont été pris de court en pensant facilement passer cette étape avec leur liste gouvernementale. Il se trouve aussi que le président et le premier ministre ont également leur propre projet s'agissant de l'attelage gouvernemental, sa composition et le processus. En entendant le dénouement et la décantation de cette situation, un vrai match se déroule actuellement au sommet de l'État. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, les collèges et lycées publics vont rouvrir à partir du 12 octobre, a annoncé le ministre de l'Éducation, Adamu Adamu. Le pays avait fermé toutes ses écoles en mars afin d'empêcher la propagation du coronavirus. En septembre, les autorités ont annoncé la réouverture des classes préparant des diplômes. Le nombre de nouvelles infections par jour est redescendu à 200, a dit le ministre. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a conclu ce vendredi à Rabat une tournée pour renforcer la coopération militaire avec les pays du Maghreb sur la lutte contre le djihadisme et la sécurité en Libye et au Sahel. Le point avec Bagassi Koura.
Comme à Tunis mercredi, le chef du Pentagone a souligné aujourd'hui à Rabat un accord décennal de coopération militaire avec le Royaume. Cette feuille de route réaffirme clairement que notre alliance est forte et faite pour durer, a souligné Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. Le Maroc accueille chaque année African Lion, l'exercice militaire le plus important du continent, sous la houlette du commandement militaire américain pour l'Afrique. Les États-Unis sont le premier fournisseur d'armement au Maroc avec avions de combat, navires, chars et véhicules blindés. M. Esper a aussi souligné hier un accord de coopération militaire avec l'Algérie voisine, qui était pourtant un client majeur de la Russie. La dernière étape de sa tournée au Maghreb coïncide avec la reprise ce soir du dialogue entre des parlementaires libyens des deux camps rivaux à Bouznika, dans la région de Rabat. En décembre dernier, l'instabilité en Libye et au Sahel avait été au centre d'une visite à Rabat de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine.
Amnesty International a exhorté les autorités égyptiennes à libérer des centaines de personnes arrêtées en septembre lors de manifestations. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs régions pauvres contre les réformes économiques menées depuis 2016 et une campagne pour faire cesser les constructions illégales. Les manifestations sont interdites en Égypte depuis 2013 et l'état d'urgence est en vigueur depuis 2017.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les combats entre Arméniens et Azerbaïdjanais pour le Nagorno-Karabakh ont continué ce vendredi avec des frappes azerbaïdjanaises sur Stepanakert, la principale ville de la région séparatiste. Bakou a jugé que l'Arménie devait se retirer du territoire afin d'arrêter l'escalade au lendemain d'un appel à la fin des hostilités des présidents américains, russes et français. Washington a sanctionné 8 hauts responsables du Bélarus, dont le ministre de l'Intérieur. Le Kremlin a qualifié d'aveu de faiblesse les sanctions décidées un peu plus tôt ce vendredi par les dirigeants de l'Union européenne contre le régime au pouvoir. Ces sanctions, épargnant toutefois le président Loukachenko, ont conduit Minsk à annoncer des mesures en rétorsion. L'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour l'Irlande du Nord a averti ce vendredi que le projet de loi britannique revenant partiellement sur l'accord de Brexit pourrait menacer les négociations commerciales entre Washington et Londres ainsi que la paix en Irlande du Nord. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Écho, présentée par John Lindon.
Le Sénégal n'ira pas sur les marchés financiers internationaux pour financer son plan de relance économique, d'après Amadou Ott, ministre de l'économie. Il a présenté hier une nouvelle orientation dénommée « Programme d'action prioritaire ajusté et accéléré », disant que son pays va se contenter du financement octroyé par les partenaires au développement, à savoir la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'Agence française de développement. L'Ouganda risque de perdre jusqu'à 287 millions de dollars de recettes sur 25 ans dans le cadre du méga projet pétrolier mené par le groupe français Total en Afrique de l'Est à cause de sa convention fiscale avec les Pays-Bas. D'après l'ONG Oxfam, ce projet mené par Total et la compagnie chinoise Sinopec prévoit l'exploitation des gisements découverts en 2006 en Ouganda dans la région du lac Albert et la construction d'un oléoduc de 1440 km passant par la Tanzanie. Le taux de chômage aux États-Unis a baissé un peu plus qu'attendu en septembre et s'établit à 7,9% contre 8,4% auparavant. Ce rapport mensuel sur l'emploi est le dernier à être publié avant l'élection présidentielle du 3 novembre.
À présent, les sports présentés par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à vous tous amis des sports. Nous commençons par le football avec cette mauvaise nouvelle de Dani Carvajal. L'arrière droit du Real Madrid a subi une blessure au ligament latéral interne du genou droit. Le club champion d'Espagne en titre ne précise pas la durée d'absence du joueur, se limitant à dire qu'il est en attente d'évolution. Mais selon la presse espagnole, celle-ci pourrait être d'environ 2 mois. L'international espagnol va manquer le match de championnat dimanche contre Levante. En plus des rencontres de l'Espagne la semaine prochaine contre le Portugal, la Suisse et l'Ukraine, Dani Carvajal manquerait également les débuts de son équipe en Ligue des Champions à la fin du mois. Et sur le marché des transferts, le Barça exclut un départ de l'ailier français Ousmane Dembélé, annoncé par certains médias à Manchester United à 3 jours de la clôture du marché des transferts lundi, a affirmé le directeur sportif du FC Barcelone, Ramon Planes, lors de la présentation de la dernière recrue Blaugrana, le jeune arrière droit Serginho Dest. L'attaquant brésilien Carlos Vinicius, meilleur buteur du championnat portugais la saison dernière, va être prêté 1 an à Tottenham par le Benfica Lisbonne, a annoncé jeudi soir le club portugais. Les Spurs de José Mourinho paieront 3 millions d'euros pour le prêt du buteur de 25 ans et disposeront d'une option d'achat fixée à 45 millions d'euros, de laquelle sera déduite le montant du prêt si l'option est levée, a expliqué Benfica dans un communiqué aux autorités boursières. Direction Éthiopie pour parler de l'athlétisme. Eh bien, la ville des coureurs de fond tente de distancer la pandémie. Il y a 8 mois, Anna Aougichou, qualifiée à 16 ans pour une compétition nationale sur 400 mètres, se voyait déjà une nouvelle étoile montante de la course éthiopienne avec en tête la trajectoire de Kenenisa Bekele, une des idoles de leur ville de Bekoji. Mais cette trajectoire a été stoppée par la pandémie de coronavirus qui a obligé les autorités à annuler l'épreuve et à instaurer un état d'urgence qui, entre autres, restreignait les conditions d'entraînement des athlètes. À propos, Dokenenis Abekele a déclaré forfait pour le marathon de Londres où il devait affronter dimanche le recordman du monde de la spécialité, le Kenyan Eliud Kipchoge. L'Éthiopien est blessé à un mollet, triple champion olympique et quintuple champion du monde sur la piste. Bekele possède le deuxième temps de l'histoire sur la distance des 42 195 km.
Merci beaucoup Eric pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Togo, la nouvelle première ministre Victoire Dogbetomega était devant les députés ce vendredi pour le discours de politique générale. Elle était accompagnée de son gouvernement rendu public jeudi, qui compte 33 ministres, dont 10 femmes, y compris une ministre de la Défense, Essozimna Marguerite Niakade. Depuis 2009, le ministère des Armées était rattaché à la présidence. La réaction des Togolais sur ce nouveau gouvernement avec Kayilosan Alomé.
Au prime abord, les Togolais s'attardent sur la nomination d'une femme à la primature, une première dans l'histoire du pays. L'autre surprise est la détention du portefeuille des armées par une femme et une apparente jeunesse de cette nouvelle équipe.
J'ai déjà une très bonne impression. Maintenant, le reste est de voir ce gouvernement composé d'hommes et de femmes jeunes, comment est-ce qu'ils pourront vraiment gérer leur portefeuille pour montrer à tout le monde que la jeunesse et que les femmes sont capables.
Si le chef de l'État a osé permettre à ce que les femmes et les jeunes atteignent 35% donc du gouvernement, c'est sûr que les prochaines politiques qui vont être définies vont tenir compte des jeunes, vont tenir compte des femmes pour que nous puissions avoir un pays référence.
Un point fort à relever est la meilleure représentativité des femmes dans ce nouveau gouvernement par rapport au précédent. Le ministère de la Planification, qui est désormais rattaché à la présidence de la République, n'est pas compris.
Le ministère des Armées, longtemps rattaché à la présidence, vient d'être pourvu. Réaction du député Jerry Tama, militaire reconverti et ancien élève de l'école militaire de Saint-Cyr.
Autrefois, on avait l'impression que l'armée était bunkerisée et n'a pas de représentants au sein du gouvernement. Cette fois-ci, c'est une chose faite. Maintenant, sans aucun doute qu'on verra à l'usage l'efficacité de notre armée par rapport aux menaces sécuritaires et par rapport même à sa relation avec le reste de la nation va être améliorée en ayant cette fois-ci un ambassadeur qui reste quand même une femme.
Pour les Togolais, la nature du gouvernement leur importe peu. Ils ont des attentes qui espère être comblé par la nouvelle équipe gouvernementale.
Nos attentes sont que vraiment ces jeunes dans le gouvernement, ces femmes dans le gouvernement, puissent être vraiment impliquées dans le diagnostic, dans l'élaboration des politiques et des stratégies de développement du pays. Nous voudrions croire que ces personnes seront à l'écoute des populations, effectivement, pour être promoteurs d'une gouvernance qui démontre l'écoute du peuple, d'une gouvernance pour le peuple. Nous verrons les changements s'opérer dans tous les secteurs du fait que les jeunes et les femmes aient été impliqués dans notre gouvernement.
Ce nouveau gouvernement est le premier du 4e quinquennat de Faure Gnassingbé après sa réélection le 22 février dernier à la présidence togolaise. Kayilosan Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le dépôt des candidatures à la présidentielle du 22 novembre se poursuit, avec notamment celui du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, ce vendredi. Cadré Désiré Ouédraogo, ancien premier ministre de Blaise Compaoré, et Eddy Kombouaghou, président du parti CDP, sont parmi les favoris des candidats de l'opposition. Arzouma Compaoré a joint Eddy Kombouaghou à Ouagadougou, qui revient sur les enjeux de ces élections en ce qui le concerne en particulier.
C'est l'une des rares fois où nous avons autant de partis politiques assez structurés et qui vont à la conquête du pouvoir. Il vous souviendra que depuis les années 60 jusqu'à nos jours, Il n'y a jamais eu au Burkina Faso un passage de témoin d'un président démocratiquement élu à un nouveau président démocratiquement élu. Tous les passages, tous les changements de président se sont passés dans la douleur parfois, et parfois dans la violence. Nous ne souhaitons pas que cela arrive. C'est pourquoi nous sommes très regardants dans l'organisation des élections. Nous avons eu au début à dénoncer un peu le fait que le gouvernement n'est pas de la bonne volonté parce que à l'enrôlement des électeurs, une bonne partie de la diaspora a été écartée. Sur un potentiel de 2500, nous n'avons personne à l'extérieur du Burkina. Nous n'avons pu enrôler que 23 000. Nous sommes loin du compte. Mais à l'intérieur, nous avons également eu peur que dans les zones à haut risque, où il y a les attaques terroristes, on ne puisse pas enrôler. Mais les efforts ont été faits pour que au moins toutes les communes rurales, les chefs-lieux des communes rurales puissent être enrôlés. Nous avons un fichier. Tu vois ce qu'il vaut. Nous avons espéré que le fichier sera audité, qu'on aura le pot afin d'aller aux élections d'une manière apaisée.
Beaucoup ont espéré un changement concret avec justement l'insurrection. Aujourd'hui, vous êtes quelque part la continuation de cet ancien régime. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent cela?
Non, nous ne sommes pas seulement la continuation. Nous continuons ce qui est positif. Parce que c'est illusoire de dire que tout ce que Blaise Compaoré a fait est négatif. Il faut s'appuyer sur ce qui est positif et tirer une leçon de ce qui a été négatif. Les populations savent que ce qui se passe sous Blaise Compaoré est meilleur que ce qui se passe actuellement. Mais je me présente comme le candidat de la rupture générationnelle, la rupture par la vie, par la manière de gouverner, par l'intégrité. Nous ne venons pas au pouvoir d'abord pour nous venger. Non, nous ne voulons pas nous venger. Nous voulons leur donner l'exemple que nous pouvons pardonner et reconstruire ensemble. Nous ne voulons pas au pouvoir pour nous enrichir, mais pour servir le peuple. Voici ce qui distingue le candidat et le candidat des autres.
Eddy Kombouaggo est président du parti CDP au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
L'autorité nationale des élections centrafricaines a envoyé une mission à Washington pour une opération d'enrôlement des centrafricains de la diaspora. Des centrafricains venus des différents États américains ont pris d'assaut les locaux de leur ambassade dans la capitale américaine pour s'inscrire sur la liste électorale en vue de la présidentielle prévue le 27 décembre. Firmin Koyaweda s'est entretenu à ce propos avec le rapporteur général des opérations, Jean-Désiré Batangombe.
Tout s'est déroulé dans de bonnes conditions, dans une ambiance, je pourrais dire, fraternelle, de paix, parce que tous les Centrafricains qui sont venus se faire enregistrer, ils ont observé ce que notre devise recommande, la dignité. Les documents que nous avons demandés, notamment les pièces d'identité ou bien un acte de naissance, tout le monde a donné les documents en paix et sans trop de troubles.
Nous voyons une forte affluence des Centrafricains venus de plusieurs États pour se faire enrôler. Est-ce parce qu'ils attachent un intérêt particulier à ces élections de cette année?
Bon, la motivation première, c'est le devoir citoyen de tout un chacun. Nous sommes Centrafricains à part entière, même si nous vivons très loin de la mère patrie. Nous, les Centrafricains, c'est pourquoi tu vois les gens sortir de gauche à droite de différents États pour venir se faire enrôler. C'est d'abord un devoir citoyen et également c'est notre fierté d'appartenir à la République Centrafricaine. Vous savez, les élections, c'est là où on prend les grandes décisions de la vie de la nation. On prend la décision de confier la gestion du pays entre les mains d'un des fils du pays ou bien d'une des filles du pays. Et les Centrafricains vivant à l'étranger, ceux de la diaspora font partie bel et bien. Donc pour eux, c'est un grand enjeu de prendre part à cette prise de décision, de choisir celui qui prendra la destinée de la République centrafricaine pour les cinq prochaines années. Et depuis 1993, nous l'avons n'avons pas fait. Donc nous avons en quelque sorte laissé notre pays être dirigé par les autres sans pour autant qu'on ait notre mot à dire.
À cette étape de la chose, on peut confirmer que les Centrafricains des États-Unis vont réellement voter.
Conformément à la Constitution centrafricaine et au code électoral de la République centrafricaine, le premier tour de la présidentielle en République centrafricaine aura lieu le 27 décembre 2020. Donc, tout comme en République centrafricaine, nous aurons, je crois, 10 heures d'ouverture du bureau de vote. Donc, nous allons commencer probablement vers 8 heures pour finir à 18 heures. Et tous les Centrafricains à l'âge de voter, ayant déjà 18 ans révolus, viendront. Ceux qui ont déjà, ceux qui se sont fait enrôler, viendront avec leur carte d'électeur pour prendre part au vote. Et nous allons en même temps prendre les résultats et les transmettre à Bangui pour qu'on puisse compiler le tout et proclamer les résultats finaux de la présidentielle.
Le rapporteur général des opérations d'enrôlement des Centrafricains de la diaspora, Jean-Désiré Mbatangombe.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Au Nigeria, les agriculteurs du Nord ont perdu plus de 2 millions de tonnes de riz, soit un quart de la récolte prévue cette année à cause des inondations. Malgré cette perte importante, le gouvernement maintient l'interdiction des importations de riz des pays voisins pour lutter contre la contrebande et stimuler la production locale. Un reportage d'Ifioketang à Argungu, le récit est de Michel Joseph.
Ibrahim Adoulahi examine ce qui reste de sa rizière de 350 hectares dans l'état de Kebbi. Il s'attendait à récolter 600 tonnes, mais après des semaines de graves inondations, il aura peut-être la chance d'obtenir 100 tonnes de riz.
Since when I started farming, I have not experienced
Depuis que j'ai commencé à cultiver, je n'ai jamais connu la culture intensive du riz comme maintenant, car beaucoup de gens sont dans la riziculture. Mais malheureusement, nous avons connu ces graves inondations que nous subissons encore, et les agriculteurs comptent leurs pertes. 90% de nos agriculteurs ont perdu ce qu'ils ont cultivé.
L'état de Kebbi, le plus grand état producteur de riz du Nigeria, avait projeté 2,5 millions de tonnes cette année. Les fortes pluies de septembre ont emporté 2 millions de tonnes, ce qui pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix. Mohamed Anaouna est meunier.
Si la pluie a déjà emporté tous les produits de la ferme, vous savez que les prix vont augmenter parce que le peu qu'ils auront au sol, ils voudront récupérer la valeur de ce qui a été détruit. Donc ils vont doubler le prix.
Avec plus de 200 millions d'habitants, le pays le plus peuplé d'Afrique importe chaque année à coût de milliards de dollars du riz et du blé. Les gouvernements successifs ont voulu faire la promotion de la production locale pour parvenir à l'autosuffisance. L'année dernière, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres pour lutter contre la contrebande et stimuler la production locale. Malgré les pertes cette année, les autorités affirment que l'interdiction restera en vigueur et que les agriculteurs touchés seront indemnisés. John Wuyep, président de l'Association des agriculteurs.
Le gouvernement et même les institutions financières ont un mécanisme en place. Beaucoup de ceux qui ont perdu maintenant se préparent déjà à la saison sèche. Et c'est là qu'il y aura une synergie.
L'Association des agriculteurs affirme qu'un meilleur travail de base est nécessaire pour canaliser les eaux de la pluie, pour éviter les inondations et avoir un approvisionnement en eau plus régulier pendant la saison sèche. La réduction des inondations aiderait également à sauver des maisons et des milliers de Nigérians, souvent victimes des débordements des rivières.
C'est
c'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.